Bonjour tout le monde, on est ici aujourd'hui avec Audrey Le Breton de la chaîne Janelle et vous sur Instagram. Et on est là pour parler de l'éthique des relations dans sa famille, avec son chéri, avec ses enfants, avec tout ce que ça crée pour eux dans leur famille.
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit. Donc merci Audrey d'être là avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Bonjour Adrien, bonjour Aimé. C'est un plaisir de faire ce premier podcast avec vous.
Oui, en plus, on est honorés que ce soit ton premier podcast.
Et pour nous, c'est notre première invitée, donc c'est une première pour tout le monde.
C'est ça, trop chouette. C'est une première pour tout le monde. Oui. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu?
Oui. Alors, moi, je suis Audrey. On m'appelle souvent Janelle parce que mon compte, c'est Janelle et vous. Janelle, j'aime bien redire, c'est les initiales de nos prénoms. Donc, Jonathan, Audrey, Nino, Nathan et Amy Le Breton. Je suis maman de 3 enfants. Nino, il a 11 ans. Nathan, 9 ans et Amy, 3 ans. Je suis entrepreneuse. J'ai mon entreprise depuis 2 ans et en parallèle, je travaille dans l'animation. En fait, je suis fonctionnaire et je travaille sur le terrain avec les enfants. Je suis sur 4 écoles. Et voilà, et j'ai mon amoureux. On est mariés depuis 2009. Et on est ensemble depuis toujours, depuis la maternelle, on se connaît, mais voilà. Pour les petites présentations.
Une vie bien remplie, pleine de richesses.
C'est ça. Et donc, peut-être pour finir cette présentation, moi j'accompagne la femme, les parents, et en parallèle de tout ça, forcément le couple, et j'aide à grandir les enfants, mais même les adultes, hein, dans leur parentalité et surtout dans leur épanouissement. De trouver l'équilibre au sein de cette famille avec des outils, avec des idées créatives, du jeu, du lien. Et c'est ça qu'on va aborder maintenant. Mais voilà.
Oui. C'est ça. Alors effectivement, c'est ça qui nous a donné envie de t'inviter sur le podcast et de faire cet épisode sur ce thème-là, parce que dans tout ce que tu proposes, dans tes vidéos, enfin sur tes posts Instagram, etc., il y a beaucoup d'outils, de comment faire et de quoi, mais tout ça est vraiment habité par une éthique forte, par des valeurs, par des choses qui sont touchantes et qui sont, bon, tu vas nous expliquer mieux comment, mais en tout cas, nous, de là où on en est, y a des valeurs de communication, de bienveillance, de lien, d'amour, etc. Après, je pense que c'est des valeurs auxquelles la plupart d'entre nous aspirent. La question, c'est bien sûr comment est-ce qu'on peut continuer à les incarner quand la vie nous met un peu à l'épreuve et que ça devient difficile et qu'on rentre dans nos émotions ou quand il y a... Voilà, des disparités de caractère, de personnalité, d'histoire dans la famille, tout ça. Mais ce qui nous a beaucoup touchés dans ce que tu partages, c'est vraiment... on sent que c'est pas seulement du comment faire dans le pratico-pratique, même s'il y a aussi ça et comment avoir tous ces papiers de la famille au même endroit pour que tout le monde puisse y accéder et puis programmer les menus, etc., etc. Mais il y a aussi surtout en fait comment on fait fonctionner une cellule familiale, comment on fait fonctionner un système avec, dans votre cas, 5 individus qui ont toutes et toutes leur réalité, leur caractère encore une fois et tout ça. Et comment est-ce qu'on crée un fonctionnement qui va puiser sa force dans des valeurs et qui en même temps nous permet de faire fonctionner le quotidien, parce qu'un quotidien c'est énormément de boulot, c'est énormément de questionnements, c'est énormément de difficultés aussi, d'épreuves, etc. Et c'est pas tout joli comme sur le papier où on sait appliquer facilement toutes nos jolies valeurs comme on aimerait pouvoir les appliquer. Donc c'est ça qu'on aime énormément, c'est que tu fais le lien, en fait, entre cette dimension éthique, philosophique, de valeur et quelque chose de pratico-pratique dans la vie. Et voilà, donc on avait envie de te demander de nous donner un petit insight, une petite vue sur comment est-ce que vous le mettez en œuvre dans votre famille et comment est-ce que ça peut tous nous inspirer et nous aider à faire de même.
Yes. Alors, le début, et ce qui est important aussi d'entendre, toi qui nous écoutes, c'est vraiment que c'est pas toujours facile et surtout, on a eu cette révélation et tout ce changement de vie parce que c'est un changement de vie. Enfin, on s'est découvert, on s'est connu en tant que couple, on a eu notre premier enfant. Enfin, c'est un bouleversement être parent. Et on est tombé, on s'est cassé la figure, on s'est pris un mur, deux, trois. Et à partir du moment où on a accepté, je pense que c'était, enfin, je suis sûre même, à partir du moment où on a accepté de dire, ok, c'est difficile pour tout le monde là, stop, on appuie sur pause. Et maintenant, on prend en main et on apprend vraiment à connaître ce que l'autre a besoin, ce que l'autre veut. Et on va créer vraiment ces deux cercles qui vont se réunir. Mais dans ces deux cercles, il y a vraiment deux individus. Et dans cet individu, enfin, vraiment le fait de se dire, bah, il faut que tu aies ton sentiment d'accomplissement, toi. Il faut que tu puisses te connaître, avoir confiance, avoir des passions. Mais vraiment qu'on soit en séparation et qu'on se réunisse en fait au sein de notre famille, à l'intérieur, à la maison, etc. Et tu disais tout à l'heure, bah, après il y a les outils, il y a tout ça, mais en fait ça a cadré les choses. C'est-à-dire que on a peut-être fait à l'envers, mais c'est ce qui a fonctionné chez nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit bon bah maintenant, on sait que c'est difficile et comment on veut arriver à retrouver du lien, à cette communication qui est tellement importante. Bah il a fallu se donner des rendez-vous en fait. Il a fallu se dire, bon, ok, moi je dis souvent, on a un petit carnet et on note dans le carnet tout ce qui n'allait pas. On avait chacun notre carnet. Et en fait, on se retrouvait tous les dimanches après-midi pendant la sieste et on se disait, bon, bah, on prend quelle chose aujourd'hui? Quelle chose on va travailler? Parce que c'est vraiment important de travailler cette communication et cette confiance et de se dire, oh, bon, ok, c'est difficile pour toi, ça l'est aussi pour moi. Et toi, comment tu te sens? Comment tu te sens? Est-ce que ça t'énerve? Oui, ça t'énerve, ok, parce que j'ai réagi comme ça. Je suis désolée, je ne l'avais pas vu comme ça. Et en fait, je dis souvent, il n'y a pas besoin de parler pendant 1 heure, mais ne serait-ce que de parler pendant 15-20 minutes, quand c'est difficile, hein, parce que moi, c'est facile pour moi de parler, mais ça ne l'est pas pour mon amoureux. C'est-à-dire que mon chéri, c'est difficile pour lui la communication. C'est quelque chose qui l'angoisse, qui l'angoissait beaucoup plus. Il avait un manque de confiance en lui. Enfin, c'était explosif, en fait. Et j'ai appris à dire, bon, bah, en fait, c'est en lui, c'est comme ça, donc comment on peut arriver à trouver notre communication? On a tendance à dire, ouais, mais le mien, il parle pas, le mien, il m'écoute pas quand je lui dis quelque chose. Et c'est là où c'est important de reprendre tout en disant, ouais, mais parce qu'en fait, tu veux l'amener dans ton cercle, alors qu'en fait, il faut qu'on ait chacun notre cercle et il faut qu'on trouve à quel moment on réunit notre moitié de cercle, ou même trois quarts, ou même un quart, ou même, enfin, voilà. Peu importe ce que vous voulez, en fait, mais c'est votre couple. Et il n'y a pas besoin de faire comme la voisine ou comme les voisins ou comme... Enfin, voilà, c'est votre réalité, votre couple. Mais par contre, il faut réussir à appuyer sur pause. Et la communication, c'est la base de tout pour le démarrage. Et à partir... Vas-y,
Vas-y,
vas-y.
vas-y.
Ah, juste pour finir cette petite parenthèse, à partir du moment où vous arrivez à le faire vous-même, ensuite, dans votre couple, les enfants, il y a l'effet miroir. C'est-à-dire que de toute façon, vous n'avez rien besoin de... Enfin, vous êtes l'exemple. Donc au final, ça se fait naturellement avec les enfants. C'est ça qui est magique. Mais la priorité, c'est vous-même.
Eh oui.
C'est vous en tant que personne. Parce que si vous n'êtes pas heureuse ou heureux seul, vous ne pouvez pas attendre de votre moitié, de l'autre, qui vous rende heureux ou heureuse. C'est vous déjà la priorité.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire justement par le faire soi-même et être heureux seul? Comment cette communication avec soi?
Alors, pas forcément, parce qu'il y a ce côté aussi un peu plus terre à terre, c'est-à-dire déjà, il ne faut pas s'oublier, et je pense que c'est le plus important. C'est ce que les femmes, malheureusement, bah, font en priorité quand elles deviennent maman, c'est qu'elles s'oublient, alors qu'en fait, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, mais même pour l'homme, hein, parce que c'est la même chose pour l'homme, hein, on est similaires hein, sur plein de choses. Et donc, du coup, c'est de ne pas s'oublier. Pas s'oublier, c'est de savoir vos rêves, tout simplement. Vos rêves, vos passions, vos moments seuls. Ce qui vous permet de vous sentir accompli, heureux, en fait. Et souvent, les gens, ils oublient. Ah ouais, c'est vrai que lire, ça me fait du bien. Bah alors, lis, impose-toi de lire. N'oublie pas ça. Moi, j'aime bien quand je vais faire des balades en nature, et bah continue d'aller tout seul te balader. Moi, j'aime bien aller à la pêche, et bah vas-y. Et nous, en fait, on fait beaucoup de choses seuls. Et je pense que c'est ce qui permet notre équilibre. Parce qu'on a notre soupape, parce qu'on se connaît, en fait. On sait nos besoins, et on se les dit, et on se les note. Et même nos enfants, en fait. Et ça, ça a été une grande
nourrit,
force.
Du coup. Ça vous nourrit chacun.
Mais bien sûr, notre réservoir, il se remplit. Tu n'as pas la même... patience, écoute, parce que l'écoute c'est le plus important. On parle de communication, mais l'écoute ça va ensemble. Et du coup, t'as pas la même écoute et la même communication si ton réservoir est vide.
Oui.
Tout simplement. Oui. Tu vas interpréter, tu vas être dans le jugement, tu vas être à fleur de peau, tu vas. Et du coup, c'est. Mais c'est aussi ok. C'est bien sûr ok. C'est-à-dire que t'as le droit d'être fatigué aussi. T'as le droit de dire oh, stop. Ok, là je suis désolée ce soir, mais j'ai besoin d'être seule. Et je me rappelle, j'ai fait un petit outil là pour une famille et je pense que je vais le diffuser en masse. J'avais fait des petits cœurs et j'avais dit, donne-le à ton chéri, à ton enfant en disant, j'ai besoin d'être seule, mais je t'aime. Je t'aime, c'est pas parce que j'ai besoin d'être seule que je t'abandonne. Non, je t'aime et j'ai juste besoin de me retrouver moi parce que sinon, je sens que je vais exploser et c'est ok, ça arrive.
Oui. Alors, ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'effectivement on peut s'oublier et peut-être de façon un petit peu différente dans la société en fonction des genres, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des tendances où globalement les femmes ont tendance à avoir la sensation de plus s'oublier dans la vie quotidienne, de la maison, des enfants, la gestion, etc. C'est une majorité, c'est pas tout le monde bien sûr, mais globalement c'est quand même une tendance. Et puis de l'autre côté, les hommes, peut-être que, en tout cas pour nous les femmes, on a peut-être moins... une image concrète de comment ils peuvent s'oublier eux aussi là-dedans. Mais on en parlait encore hier avec Adrien, on prenait l'exemple de son papa qui a vraiment changé au moment où il est passé à la retraite et qui aujourd'hui est un grand-père très 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 différent du père qu'il a pu être. Alors bon, bien sûr, c'est pas la même relation, il y a pas... Mais en fait, quand on a regardé ça, on s'est dit, ok, en fait, il y a une notion qui s'est soulagée et qui s'est un peu levée avec la retraite et avec le fait d'être le grand-père, c'est la notion de responsabilité. Et on a cette sensation qu'il y a, encore une fois, beaucoup d'hommes, c'est pas tout le monde, et les femmes aussi, bien sûr, mais beaucoup d'hommes qui se mettent une pression par rapport à la responsabilité qu'ils doivent porter sur le fait de subvenir aux besoins de la famille, ou sur le fait d'être solide, de pouvoir prendre des décisions, de pas craquer, de pas avoir d'émotions, de pas... Et en même temps, souvent, on ne leur a pas appris forcément à communiquer, comme tu disais tout à l'heure. Et puis en même temps, c'est un petit peu interdit aussi, parce que les émotions pour les hommes, c'est tabou, t'es pas un homme, quoi. Donc il y a encore tellement de ça et de ce poids, de cette responsabilité, d'être celui qui tient et sur lequel on peut toujours s'appuyer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se perdent là-dedans, vraiment. Et le jour où on arrive à soulever un peu ça et à dire aussi à nos hommes, c'est ok que toi aussi tu craques, que toi aussi tu sois triste, que toi aussi tu sois fatigué à un moment, qu'on puisse effectivement l'accueillir, en parler d'une façon ou d'une autre, peut-être pas avec 12 000 mots comme nous on le ferait entre nous, entre copines, mais peut-être différemment, ou par écrit, ou je ne sais quoi, mais effectivement, de laisser une place à ça pour que chacun, en fait, puisse exister réellement. Parce que là, du coup, on redécouvre le père d'Adrien, qui, en fait, est un homme et un grand-père formidable et plein d'émotions et de tendresse pour les enfants, et qui a envie de jouer avec eux, etc. Alors que quelque part, il s'est... pas autoriser ça quand il était père, et tout le monde en a pâti. Lui, comme pour le coup, c'est deux garçons, quoi. Donc il y a quelque chose de ça, effectivement, à s'autoriser.
Après, je pense qu'il y a même aussi la charge mentale, hein, et il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. C'est que il y a cette notion de responsabilité, mais il y a aussi aujourd'hui cette notion de mère parfaite. il y a cette notion de la femme veut tout faire, aller partout. Et en fait, malheureusement, l'homme, là, n'a plus sa place de papa, n'a plus sa place d'homme.
Oui.
Et en fait, on le laisse pas se tromper, on le laisse pas se prendre des murs, on le laisse pas se casser la figure. Et donc, il ne peut pas apprendre. Et il ne peut pas comprendre de lui-même, trouver vraiment sa place. Et je trouve que là, ça fait beaucoup de mal aujourd'hui, bien plus que la prise de responsabilité, parce que limite, on lui demande même plus de prendre des responsabilités. Mmh. Et alors, c'est pas une généralité, on est vraiment en train d'inverser cette tendance-là, et heureusement. Mais je trouve que moi, j'ai beaucoup de papas dans mes accompagnements, et il y a beaucoup de papas qui sont tellement heureux quand ils m'ont que moi en one-to-one vraiment pour discuter. Et je sens cette libération en disant « Ah, merci de m'écouter ». Et en fait, ils vident leur sac. Parce que malheureusement, je dois aller au travail, je dois faire ça, je rentre à la maison. Et puis, je fais un truc, c'est pas bien. Mais en fait, faut vraiment laisser la place à chacun. Et en fait, c'est OK de se tromper, c'est OK de mal faire, c'est OK de crier sur ses enfants, c'est OK des fois d'être dans la... Dans malheureusement de la CNV, hein, de la, non, de la, pas de la CNV, à l'inverse, des violences ordinaires. Ouais, non, mais c'est important de trouver l'équilibre, et peu importe la place que l'homme veut avoir, il faut respecter en fait son choix et après tendre vers un équilibre, mais il faut accepter, en fait.
Ouais. Et comme tu dis, que du coup, chacun puisse avoir sa place dans le couple et dans la famille. Et puis, du coup, ça permet aussi, après, aux enfants d'avoir leur place à eux.
Oui, et inversement pour la charge mentale. C'est-à-dire que la maison, on est une équipe, on est une team. C'est-à-dire que il n'y a pas de « c'est moi, c'est toi ». Non, stop, on éclate ces cases-là où on est trop resté longtemps dedans. Et voilà. Et on se partage, en fait. On se partage tout, les tâches, les rôles.
Ok. Alors justement, du coup, tu dirais que ce serait quoi les valeurs fondatrices de votre éthique, si tu devais les nommer, ou en tout cas en nommer quelques-unes peut-être ?
Ouais, alors la plus importante déjà pour nous, c'est... c'est hyper ambivalent parce qu'on a vraiment beaucoup de moments seuls. Mais quand on est ensemble, on est limite tous collés, on a beaucoup de liens... Voilà, on est très, très câlin. Je pense que ça, c'est notre base, vraiment, à nous. Et ensuite, l'écoute. L'écoute, c'est le plus important. L'écoute, le jeu. L'écoute et le jeu, les câlins, l'écoute et le jeu, c'est vraiment nos grandes valeurs au sein de la maison, de la famille. Et voilà, les câlins en premier. Hein. C'est vraiment, je le redis, et souvent, on n'a pas encore parlé de ça, hein, de sexualité, etc. Mais je trouve que ça apporte énormément à l'équilibre aussi. Et voilà, mais après, dans le couple et dans la famille, beaucoup de... Voilà, on aime beaucoup les câlins collectifs, on va être très bonjour le matin, on prend le temps de se faire un câlin. Voilà, c'est important. Et puis après, au sein du couple, on a beaucoup de moments que nous, en fait. On se force à faire des moments sans enfants.
Là, moi, je t'entends dire le câlin, l'écoute et le jeu. Il y a des élections législatives dimanche. Si tu veux te présenter avec un programme, ça peut être une bonne idée, à mon avis.
Ouais, je pense aussi.
Oui, du câlin, de l'écoute et du jeu pour la France.
C'est ça. Puissance 1000. Ouais, et après, en plus, c'est comme ça, tout est fluide, en fait. Tout ce qui est corvée, conflit... jugement, etc., ça s'envole, en fait. Il n'y a même pas besoin de se battre. C'est fluide, parce qu'on remplit les réservoirs de tout le monde, et il y a très peu de cortisol. Donc la cortisol, c'est vraiment l'hormone de stress, hein, qui vient noyer le cerveau. Et, et tout ce qui permet de la faire descendre ou de faire monter la dopamine, c'est tout ça, en fait, ou l'oxytocine. C'est vraiment les câlins, le jeu, l'écoute, et voilà. Donc c'est la base.
Oui, l'ocytocine qu'on appelle l'hormone de l'amour, et puis aussi la sérotonine qui est appelée l'hormone du bonheur, mais qui a vraiment à voir avec le fait de sentir qu'on appartient à un système, qu'on appartient à une famille. Et c'est ça que j'entends aussi quand tu parles de câlins, bien sûr, mais aussi de jeu. Quelque part, il y a quelque chose qui crée ce fonctionnement en famille, et l'écoute, évidemment, aussi. Ça veut dire que quelque part, je te donne de la valeur et de l'importance en prenant le temps de t'écouter, en accueillant ce que tu vis, Je te montre que tu as cette valeur-là pour moi en écoutant.
Ouais, et c'est important aussi pour les personnes qui vont nous écouter, là, toi, parce que je pense que, voilà, c'est possible. Ça paraît facile quand on le dit, je le sais, mais c'est possible. Et c'est pas pour ça qu'on va pas se disputer, c'est pas pour ça qu'on va pas avoir des conflits, c'est pas pour ça qu'on va pas se reprendre des murs. Parce que oui, c'est difficile, le couple, la parentalité, mais je vous promets qu'à partir du moment où on rassemble ces trois valeurs, c'est OK. Parce qu'il faut aussi faire le chemin en se disant, mais quel est le plus important dans ma vie? Est-ce que je vais rester bouquée parce qu'il a laissé ses chaussettes sales? Ou est-ce que, allez hop, stop, on fait tomber les masques et on va câliner. Et au début, je vais peut-être pas avoir envie, mais je vais en fait me rendre compte que c'est le plus important. Et c'est possible, vraiment. Des fois, je dirais, oh là là, en fait, j'aime pas la télé, mais j'aimerais avoir des caméras à la maison pour que les gens puissent se rendre compte que c'est possible, que c'est pas juste des paroles. Non, mais je sais que c'est difficile quand t'es toi au fond du trou, quand tu dis, mais j'y arriverai jamais, ouais, mais il rentre trop tard, il est jamais à la maison, il fait que me juger. T'as l'impression d'être au fond du trou et de pas y arriver, mais en fait, c'est possible. Faut juste prendre la bonne personne qui va te tendre la bouée.
Et à l'inverse aussi, j'imagine, de la part des hommes, enfin, je suis une femme qui parle de la part des hommes, ce qui est complètement paradoxal, mais amour, tu diras si tu es d'accord avec ça. Mais effectivement aussi, comment je fais pour m'approcher d'elle? Comment est-ce que je fais pour initier ce câlin que je ne sais pas forcément trop bien faire, qu'on ne m'a pas forcément appris, parce que ben, pareil, la tendresse et les câlins, c'est quelque chose de très féminin quand même dans les fonctionnements. Et puis, ben, elle est toujours occupée, ou elle a toujours un enfant dans les bras, ou alors elle est en train de faire la vaisselle, ou elle est en train de faire ci ou de faire ça. Et puis, je ne veux pas non plus qu'elle croie que je suis forcément en train de l'approcher pour avoir ensuite du sexe, mais que, en fait, comment j'initie aussi ces moments de tendresse et je pense qu'effectivement, il y a plein de choses qui peuvent bloquer des deux côtés.
Non, alors déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le côté où, bon, bah, elle est peut-être à faire la vaisselle. Mais non, ça se trouve, c'est lui qui est à faire la vaisselle. Hein. Et du coup,
absolument.
Sur la partie, c'est ça, où il y a ce côté animal, mais que la femme peut avoir aussi. Hein. Mais on va dire que l'homme a beaucoup plus, sur cette partie sexualité, câlin, où des fois, en fait, il a juste besoin de sexe. Faut dire les mots comme ils le viennent, et pas de câlin. Mais c'est OK, en fait. Faut juste pouvoir le communiquer en amont. C'est-à-dire, bah, moi, il y a des fois où j'ai besoin de ça. Ah, OK. Donc, quand t'as besoin de ça, comment je peux être? Et ça se discute. On en parle pour, en fait, pour enlever les tabous, en fait. Parce qu'on est un couple, on est censé pouvoir tout se dire. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai trop de femmes qui me disent... j'ai pas appris à lui parler, je sais pas lui parler, je sais même pas lui envoyer un texto ou écrire une lettre. Et en fait, souvent, la femme, elle est gênée, elle a honte de faire certaines choses, de dire certaines choses. Et en fait, c'est là où il faut travailler. C'est là où il faut vraiment se dire, bon, bah, maintenant, c'est bon, si je veux être épanouie et avoir cette confiance ultime, il faut pouvoir accepter les besoins de l'autre, en fait. Si t'as besoin de sexe, bah OK, c'est pas grave, en fait. Oui. C'est pas grave que t'aies ce côté animal, bah OK, vas-y. Et ça, c'est important.
C'est ça. Et comme tu dis, ça peut être aussi la femme. Enfin, moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est qu'il y a... Il y a quelque chose qui est remis en question dans les entre guillemets nouveaux couples de notre génération de trentenaires, quarantenaires, et bien sûr ceux d'après potentiellement, où bah, du coup la femme elle a le droit d'avoir elle aussi besoin ou envie de sexe et d'avoir ce côté-là. Sans passer pour plein de choses qui seraient sales, pas bien, etc., etc. Et en même temps, de l'autre côté, l'homme, il a aussi la possibilité d'avoir envie de tendresse sans que ce soit forcément du sexe. Et qu'effectivement, peut-être que nous, en tant que femmes, on a été conditionnées par un certain inconscient collectif ou transmission sociétale, etc., à penser que si l'homme s'approche de nous et pose ses mains sur nous, c'est qu'il va vouloir que ça se termine dans le lit. Et donc, on est déjà en train de se dire, OK, si moi, j'en ai pas envie, est-ce qu'il faut que je l'arrête maintenant pour pas qu'il se fasse trop d'espoir, etc. Comme si, en fait, il n'y avait plus possibilité de tendresse sans qu'il y ait d'envie de sexualité derrière de la part d'un homme. Alors qu'en fait, ben, il peut y avoir aussi le... Justement, en fait, là, j'ai un problème problème, où il y a quelque chose qui m'a froissée, où on a perdu le lien, on a perdu la connexion entre nous, et ouais. j'aurais envie de revenir vers toi. Mais moi, je ne sais pas bien le faire avec les mots, parce que les mots, ce n'est pas forcément mon canal. Donc, je vais essayer de le faire par le corps. Et puis, ben, en fait, je suis peut-être un peu maladroit ou je ne sais pas forcément ouais. comment faire. Et à ce moment-là, c'est important... Ben, comme tu disais tout à l'heure, qu'on ait pu en parler en amont pour pouvoir le reconnaître au moment où ça se passe.
Ouais.
Et nous, c'est clairement quelque chose qu'on voit dans notre couple, c'est que ben, souvent, quand la connexion se perd, se casse entre nous, Adrien, il a tendance à avoir envie de me proposer un câlin. Et moi, dans ces moments-là, mon corps me dit « Ah non, non, mais en fait, là, je t'en veux trop, donc en fait, tu vas pas t'approcher de moi. » Et en fait, on va en parler d'abord. Et puis, c'est seulement si tu passes tous les cerceaux de feu que là, on pourra potentiellement...
Ouais.
Et en fait, j'ai appris, comme tu disais tout à l'heure, à me dire « Ok, en fait, le câlin et le contact, c'est aussi sa façon à lui de revenir vers moi. Et en fait, ben, ça peut moi aussi débloquer des choses à l'intérieur de moi, même si c'est pas ce qui me vient instinctivement. » Et qu'est-ce que je risque ? Oui, peut-être que ça va être un peu désagréable au début parce que j'en ai pas envie, mais c'est ok. Et de voir que ce câlin, il vient de lui et c'est un vrai câlin de « j'ai envie de te sentir en fait » et « j'ai envie de remettre nos énergies ensemble ». Et c'est précieux de savoir quels sont nos canaux
ouais.
de communication justement et de retour l'un vers l'autre dans ces moments.
Mais je pense que c'est beaucoup de blocage aussi. Et c'est où est-ce qu'on met, en fait, le négatif dans tout ça. Et si on l'enlève, le négatif, bah, en fait, oui, nous, on va beaucoup plus... ma maman, elle disait une phrase que j'ai détestée pendant longtemps. Elle disait, ouais, alors les câlins sur l'oreiller pour se rabibocher, non merci. Elle disait toujours ça. Et ben moi, en fait, je pense que j'en ai fait exprès, mais c'est notre marque de fabrique, c'est-à-dire que c'est notre équilibre. C'est-à-dire que oui, on va beaucoup plus communiquer la tête sous l'oreiller, dans la pénombre, parce que je sais que ça l'apaise, et parce qu'on a fait ce câlin avant, et ça va nous apaiser. Et voilà, et c'est OK, en fait, parce que ça, lui, il est beaucoup plus... bah, propice après à la discussion parce que c'est déjà difficile pour lui et en fait bah, on survalide et c'est nous, je veux dire en fait c'est à vous de trouver votre équilibre mais bon c'est généralement la communication même avec les enfants parce qu'avec les parents on a tendance à oublier et à perdre justement ce lien malheureusement et donc du coup si on pense que c'est la discussion parce que là c'est même pas de la communication quand c'est comme ça c'est de la discussion, c'est du jugement, ça ne va jamais arranger les choses. C'est polluant, en fait.
Oui.
Parce qu'on est tous les deux en état de stress. Et en fait, c'est jamais les bonnes choses qu'on va se dire. Donc, il faut pouvoir soit aller sur, comme tu disais, le câlin, etc. Et c'est le canal. Ou soit aller faire du sport, évacuer, faire des choses seules, écrire, chanter. Peu importe votre passion, mais trouver ce qui descend votre stress et qui vous permet après de reprendre, en fait, vraiment ce lien. Et en tant que parent, c'est important. Parce que sinon, on a trop tendance à être la tête dans le guidon et à oublier tout ça.
Ouais. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure, bon, là, les câlins, ok, on a un peu déplié le sujet, parce que les câlins,
oh, mais c'est la base,
les câlins éventuellement sexualité. Exactement. Et tu as parlé aussi du coup d'écoute et de jeu. Alors écoute, tu nous as donné aussi un peu des idées par rapport au fait de vous mettre dans la pénombre ou par rapport à ces petits carnets sur lesquels vous écrivez des choses. Mais comment ça se concrétise dans votre quotidien, cette écoute et puis le jeu aussi, si c'est relié?
Oui, alors nous, on favorise énormément la coopération, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire qu'on a des horaires. Alors ça peut paraître un peu très rigide, mais par exemple le 18h, on met une à deux musiques que à tour de rôle on choisit et on va ranger tout ce qu'il y a dans notre champ de vision. Bah ça c'est du jeu et ça permet en fait que on passe à table et que la maison est plus ou moins rangée. Généralement, deux musiques de 5 minutes en Speedy Gonzalez, on arrive à tout se ranger. Et on est apaisé, donc ça, c'est du jeu. On fait nos conseils de famille. On peut après en parler un peu. Mm-hmm. Et on fait beaucoup de jeux. Donc nous, c'est-à-dire que pour Noël et les anniversaires, tous nos cadeaux sont orientés famille. Je sais pas, moi, par exemple, le ping-pong, il y en a un qui va avoir un ping-pong en cadeau, ou alors à Noël, par exemple, pour tout le monde, et le ping-pong, c'est pour le mettre sur la table de cuisine, et hop, on va jouer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais après, on fait aussi... Bon, moi, je suis issue de l'animation. Donc forcément, j'ai cette facilité à proposer du jeu. Mais voilà, on va faire un karaté chaussette dans le trampoline. On va faire un cache-cache pour essayer de se décharger, de se coucher correctement parce qu'on sent qu'il y a des tensions. Et hop, on fait un cache-cache dans le noir. Enfin, voilà, on va être vraiment en mode jeu. Mais génial. Même pour apaiser... Enfin, il y a une tension entre eux, je les laisse toujours gérer les conflits seuls. Et quand je vois que c'est difficile, qu'ils ont besoin d'aide, on va prendre un gros pouf qu'on a à la maison, on va tout le monde, on va s'asseoir et on va prendre les côtés. Généralement, comme on est cinq, Mimi se met au milieu et là, hop, on essaye tous de savoir ce qui s'est passé. Et si tout le monde est là, tout le monde vient. C'est-à-dire que tout le monde s'apaise, tout le monde se met au sol et on appuie sur pause. On se force à appuyer sur pause et que tout le monde soit concerné parce qu'on se dit que quand il se passe quelque chose, on a toute notre part de responsabilité, adulte, enfant.
Oui, de responsabilité et puis aussi de vécu du coup, parce qu'en fait ça nous touche tous, c'est aussi ça, le fait de faire un système, c'est que ce qui touche deux personnes du système en fait va impacter tout le monde, alors c'est évidemment a fortiori encore plus vrai quand ça se passe entre les parents, et ça effectivement faut pas minimiser à quel point ça touche les enfants qui perçoivent, qui sentent, qui entendent, qui voilà.
Exactement.
Mais même entre les enfants... ou entre un parent et un enfant, ou etc. Ça, en fait, ça touche tout le monde, ça peut fragiliser des places, ça peut faire monter des peurs, ça peut, ou peut-être faire monter des colères, ou permettre que ça, des choses qui n'ont pas pu être dites avant soient enfin dites. Enfin, donc, on fonctionne en système, en fait.
C'est ça. Puis c'est cette prise de conscience qu'en fait, qu'on est utile aux autres aussi, qu'on apporte... On apprend des autres, c'est plus facile de voir sur les autres. Et voilà, vraiment en entraide, en fait, en team, quoi.
Et du coup, c'est un peu ça, non, le principe de vos conseils de famille?
Alors, le conseil de famille, c'est pas forcément sur la gestion des conflits, non. Le conseil de famille, on fait le dernier vendredi de chaque mois. Et en fait, ça va être pour parler de la vie à la maison. Donc, est-ce que les outils sont utilisés? Est-ce que vous voulez qu'on parle du planning, par exemple, des prochains week-ends? Est-ce qu'on parle des sorties? Est-ce que vous voulez qu'on parle des copains? On va vraiment apprendre à être dans l'écoute de ce que chacun vit, soit sur le mois qui vient de s'écouler ou soit sur le mois à venir. Et donc, ça dure entre 15 et 30 minutes, vraiment pas plus, hein. Et on est vraiment sur l'écoute. Donc après, soit ça finit en jeu, soit le conseil de famille est sous forme de jeu, ou soit, en fait, on finit en apéro famille, ces choses-là. Mais ce n'est pas uniquement sur les gestions de conflits. Quand c'est sur un conflit ou une difficulté qu'on peut rencontrer, on va faire un conseil de famille exceptionnel. Mais en tout cas, on n'oriente jamais sur quelque chose de difficile parce qu'on veut que tout le monde ait envie d'aller à ce conseil de famille. Et on ne veut pas que ça ajoute du stress. Et tout ce qui se dit au conseil de famille reste au conseil de famille. C'est-à-dire que s'ils ont envie de nous dire quelque chose qu'ils ont des difficultés à dire, parce que ça fait peur, parce que ils se disent que c'est une grosse bêtise, et ben en fait ça reste là et c'est ok. En fait on accueille et ça permet en fait d'avoir vraiment cette totale confiance, de dire bon allez, j'ai ça sur le cœur et je sais que si je le dis au conseil de famille, ça restera au conseil de famille et qu'après on n'en reviendra plus. Et ça me fait du bien parce que ça dure que 15 minutes quoi.
Oui.
Là, non, mais on a appris des sacrés trucs et c'est bien. C'est bien parce qu'on se dit que ça porte ses fruits. Ouais. Et même sur la place de chacun, sur Nathan qui nous dit donc c'est notre enfant du milieu qui est extra, hein, et extraordinaire, qui a ce côté un peu atypique de certains enfants. Et en fait, qui nous dit bah en ce moment, je me sens seule et je sais pas comment vous le dire. Et bah, bim, là, tu te prends un gros mur. Tu te prends un mur et du coup, on accueille, tout le monde pleure ou il y en a qui s'énervent. Et en fait, tu vis les émotions, mais les émotions sont belles. Donc, en fait, tu les partages ensemble et c'est OK. C'est OK.
OK, alors du coup, justement, la question qui me vient, qui me venait déjà avant, mais là encore plus, c'est comment est-ce que tu... Parce que tu dis que donc, tout ce qui est dit dans le conseil de famille reste dans le conseil de famille. Et en même temps, j'imagine qu'en tant que parent, quand t'entends ça, t'as tes tripes qui se serrent et ton cœur qui te ressaute. Et qu'il y a envie de... Bah, j'imagine, de faire quelque chose ou de mettre en place des choses pour que dans l'avenir, ils se sentent moins seuls. On ne peut pas juste se dire « Ah bon, bah, il se sent seul, c'est bien, il a pu le dire. Bon, bah, allez, au prochain conseil de famille. Enfin, » bien sûr, je caricature complètement.
Oui, 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 oui.
Mais du coup, comment est-ce que vous faites pour faire coïncider le fait que à la fois, c'est des informations importantes qui peuvent être prononcées parce qu'elles sont dans cet espace de sécurité particulier que vous avez créé spécialement pour ça. Donc, c'est des choses qui ont énormément de valeur et d'importance et qui peuvent peut-être pas être dites autrement. Et donc, il faut à la fois préserver l'espace de sécurité et en même temps, ben justement, si elles ont tellement de valeur et d'importance, on a envie de les prendre en compte aussi pour améliorer la qualité de vie. Donc,
totalement.
Comment vous coïncidez ça ? Comment vous
on agit directement. C'est-à-dire que, bon, après, moi, j'ai cette faculté où ça va très, très vite. Donc, en un quart d'heure, c'est plié. C'est-à-dire que moi, au moment même où me dit les choses, s'il le dit, c'est qu'il attend une réponse de notre part et surtout un changement. Mm. Peu importe que ce soit une bêtise, que ce soit, par exemple, avec mes copains, on a volé, etc. En fait, c'est obligé d'avoir une réaction face à ça. Mais par contre, ce sera toujours une réaction bienveillante, accueillante, en disant, ok, Nathan, merci de nous avoir livré ça, on se sent et on exprime ce qui nous arrive en fait. Là, je me sens mal, j'ai mal au ventre. On va pas mettre des cases, mais on va vraiment dire ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Je suis touchée et du coup, est-ce que toi t'as une idée? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Et il va nous dire je sais pas. Et du coup, avec mon mari, soit on a une réponse directe ou soit on en parle le dimanche. Et tout de suite, on met, de toute façon, le soir même. C'est-à-dire que là, on va lui faire un câlin plus long avec lui. Enfin, on va, voilà. Et puis, on va faire des recherches et on va trouver des solutions à mettre en place rapidement. Bah oui, là, c'est clair.
Oui, donc c'est quand même des informations qui vous enrichissent dans votre parentalité, etc. Et en même temps, avec ce côté... sécure de cet espace et de ce temps de parole que vous créez entre vous.
C'est ça. Puis c'est surtout de se dire, en fait, les enfants nous montrent le chemin, en fait. Moi, je dis tout le temps, les enfants, ils choisissent leurs parents, ils nous ont choisis. Donc, en fait, si on est vraiment à leur écoute, si on apprend vraiment... Moi, je dis, il faut mettre les écoutes cœur, en parlant des écouteurs. Et donc, du coup, si vraiment on écoute, mais pas que par la parole, mais il suffit d'observer, d'analyser, mais que ce soit vraiment de l'amour, ils nous montrent vraiment le chemin. Et du coup, ça paraît fluide une fois qu'on écoute... vraiment bien.
Et du coup, ce qui me vient, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être applicable à tous les âges.
Ah oui.
Parce que là, on en parle dans le cadre de votre famille avec des enfants petits, mais je me dis même pour des parents d'enfants adultes ou pour des enfants adultes avec leurs parents qui auraient envie d'insuffler peut-être autre chose dans le fonctionnement familial. Alors, bon, c'est pas exactement la même chose de qu'est-ce qu'on a fait le mois dernier, qu'est-ce qu'on fera le mois prochain quand on n'habite pas ensemble, mais ça peut être adaptable en fait à tous les âges.
Ouais, nous avec nos belles-sœurs et nos demi-sœurs, on se réunit toutes une fois par mois, on va au restaurant et en fait c'est ça, on est dans la communication pour pas perdre le lien en fait, parce que sinon on s'oublie, parce qu'il y a eu la Covid, parce qu'il y a eu tout ça et en fait on s'est dit stop, parce qu'en fait c'est important de pas perdre le lien, mais même au travail avec ses collègues. En fait, elle s'applique partout.
Génial comme idée.
Et puis l'empathie, toutes ces émotions-là, même les pleurs, etc., ça crée de l'empathie. Et l'empathie, c'est hyper important pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Et ça crée de l'empathie.
Oui. Alors justement, c'est ça que j'allais te poser comme question ensuite. Tu disais tout à l'heure qu'en tant que couple et que jeune parent, vous vous êtes pris un mur, deux murs, trois murs et qu'il a fallu apprendre de ça. Et voilà, la vie a des façons de nous faire grandir, parfois pas forcément confortables, mais nécessaires. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que ça a produit dans votre couple ou dans votre famille, de mettre cette attention et cette importance là-dessus? Tu vois que ça produit quoi dans vos façons de fonctionner ou juste d'être ou d'évoluer chacun?
Déjà, ça a sauvé notre couple, hein. Ça c'est clair, parce que c'était très très difficile et ça nous a sauvé nous, c'est-à-dire qu'on s'aime de plus en plus nous-mêmes, on s'aime nous deux de plus en plus. Et en fait, c'est magique de le voir sur nos enfants. Donc, c'est magique. Moi, en plus, je travaille dans les écoles où mes enfants sont. Et donc, du coup, je le vois même au sein même de leur groupe de copains, de copines. Et en fait, c'est magique de... C'est pour ça que je dis, après, vous allez voir, il n'y a rien besoin de faire. Vos enfants reproduisent. C'est fou, des fois, d'entendre vos enfants. Et en fait, c'est nos mots, c'est nos phrases, c'est nos façons de faire. Mmh. Et on se dit, oh là là, yes, yes, on a réussi. On y arrive. Et ça, ça, c'est le plus beau. En fait, c'est le plus beau de se dire qu'on est en train de... de donner cette lumière. Et en fait, j'ai envie de le dessiner, ça, mais c'est vraiment, voilà, on, même avec l'arrosoir, quoi, on leur donne tout ce qu'il faut et ils remettent, eux, à leur tour en dessous et autour d'eux, donc c'est chouette.
Ouais. Moi, je trouve ça très beau, ce témoignage que tu es en train de partager avec nous, parce que j'ai pu vraiment constater à quel point ce mécanisme d'imprégnation avec les enfants est incroyablement vrai. Mais j'avais jusque-là surtout pu remarquer à quel point c'est incroyablement vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que à quel point des choses que moi j'ai vraiment détestées dans ma famille, même si je me suis battu contre, elles se sont quand même imprégnées en moi et que d'une manière incompréhensible et quasiment incontrôlable au départ, j'avais tendance à les reproduire et à les répéter. Et que ça a été, ça continue à être un gros travail de pouvoir identifier justement ces comportements pour pas les reproduire. Mais du coup, c'est très beau de voir que, l'enfant, il fait ce que tu fais plus que ce que tu dis. En tout cas, si ce que tu dis n'est pas en accord avec ce que tu fais, il va toujours avoir tendance à reproduire ce que tu es en train de faire parce que justement, il s'inspire de ton comportement. Et moi, ça me fait beaucoup de bien d'entendre que, ce que vous faites et la manière que vous avez de vous comporter, vous déjà dans votre couple et avec vous-même, ça se transmet directement aux enfants et ils vont naturellement avoir tendance à eux aussi pouvoir le reproduire. Moi, je trouve ça très beau.
Et à l'inverse, parce que ça nous arrive aussi de faire des choses moins bien, parce qu'on est humain et parce qu'on se plante et on se prend encore des murs. Et à l'inverse, là, par exemple, Nino, ce matin dans la voiture, j'ai dit un truc à Nino de façon pas bienveillante et Nino a reproduit ça et en fait ça saute et comme c'est toujours plus facile de l'analyser chez les autres que chez soi et bah du coup comme on est dans l'écoute perpétuelle je me suis dit oula Audrey bah voilà bim hop là ce soir on reproduit enfin on analyse ça et on en reparle obligatoirement en plus je passe l'après-midi avec mon chéri donc j'ai dit hop je me le suis noté dans mon carnet et en fait on rebondit tout de suite et parce que avec Jonathan c'est pareil on a eu une enfance particulière. Après, moi, je suis persuadée qu'on choisit nos parents, donc on les a choisis pour une bonne raison. Et nous aussi, il y a eu des difficultés. Nous aussi, on a reproduit des choses au tout début où c'était très dur de le faire, alors que moi, j'en ai souffert. Et en fait, il suffit d'appuyer sur pause et dire « Bon, stop. Aujourd'hui, voilà mon chemin. Oui. » Et choisis l'autre. Et moi, j'explique souvent qu'en fait, on a un coffre au trésor à l'intérieur de nous et que quand on est enfant, on vit tellement des choses, des traumatismes qu'on les enfouit en fait. On enfouit pour grandir, pour évoluer et on devient adulte. Sauf que face à nos enfants, en fait, bim, le coffre, il s'ouvre. Et ouais, et des fois, on a des choses qui nous pètent à la figure et c'est difficile. Mais ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, il faut faire notre chemin. En effet, comme tu dis, Adrien, c'est important, étape par étape.
Et effectivement... ce que tu viens de dire à l'instant, il suffit entre guillemets juste de faire autrement. Bien sûr, ce juste, on sait à quel point il est difficile parfois, bien sûr. Et en même temps, c'est ce que tu disais au début, c'est que c'est possible.
Oui.
Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'en fait, on peut le choisir consciemment. Bien sûr qu'il y a plein de choses dans notre inconscient que parfois on arrive à voir comme des trésors et parfois on n'arrive pas à les voir comme des trésors, mais en tout cas qui font profondément partie de nous et qui sont aussi des endroits justement, enfin des choses qu'on a vécues, des expériences, etc., dans lesquelles on va pouvoir ensuite puiser une force pour se dire ok, là il faut vraiment que je fasse autrement parce que j'ai bien vu ce que moi ça m'a fait quand j'étais enfant et ce que ça a produit et comment ça m'a fait souffrir. Et c'est là qu'on le transforme en trésor, c'est vraiment l'alchimie, quoi, le plomb qui devient de l'or. Mais en tout cas, c'est possible de faire le point là-dessus, comme tu dis, en appuyant sur pause, et de choisir de faire autrement, de choisir ce que tu disais tout à l'heure, de « ok, est-ce que je donne plus d'importance aux chaussettes, ou est-ce que en fait, je donne plus d'importance à ce que j'ai envie de créer dans la famille ?» on sait tous à quel point les chaussettes peuvent être
moi je dis ça mais en plus même pas moi ça me fait rien mais
non mais les chaussettes ou autre chose, nous on a fait une petite vidéo sur les couverts par exemple, comment on range les couverts dans la cuisine, des trucs débiles, tous les couples ont leur truc, leur petit truc du quotidien, mais effectivement c'est très saisissant, mais en même temps on a vraiment cette chance quelque part aussi en tant qu'humain d'avoir une formidable capacité à conscientiser, à choisir, à nommer, à transformer aussi. Je lisais récemment un article sur l'évolution de l'humanité où il disait en fait finalement aujourd'hui on arrive à considérer que ce qui différencie l'homme des autres espèces animales, c'est peut-être sa capacité à imaginer et à créer du nouveau. Et en fait, on est les animaux qui avons le plus créé autour de nous, le plus transformé notre environnement, le plus transformé nos vies et nos façons de vivre, et du coup, qui nous sommes le plus transformés nous-mêmes, qui nous adaptons au plus de circonstances extérieures différentes, etc. Parce qu'on a cette capacité à imaginer, à vouloir, à désirer, à aller vers quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui peut être créé. Et cette force de créativité et d'imagination, elle est aussi ce qui va nous permettre de transformer ce plomb en or et de faire ce choix de transmettre autre chose par la suite et de soi-même incarner autre chose et se faire vivre autre chose à nous-mêmes. D'abord, même quand on n'est pas en couple ou pas avec des enfants, mais... c'est cette capacité à créer du nouveau, en fait, qui est formidable.
C'est ça, à rebondir, en fait, à tomber et à, hop, à se relever et à devenir meilleur chaque jour. Mais ouais, totalement.
Et c'est en ça que les valeurs que tu nous as exprimées tout à l'heure, en fait, semblent vous donner une ligne directrice. C'est-à-dire que dans cette idée de créer, encore faut-il savoir dans quelle direction on veut créer. Ouais. C'est-à-dire que... Là, l'idée de dire, ok, ce qui est central pour nous, ça va être de pouvoir justement faire des câlins, écouter et jouer. En fait, tout ça dans notre vocabulaire à nous avec Aimé, c'est de dire qu'en fait, le plus important, c'est comment on va faire pour être en lien. C'est-à-dire comment on va faire pour trouver des manières d'être ensemble et de faire que ces manières d'être ensemble répondent à nos besoins et nous permettent de nous sentir nourris et individuellement et collectivement à l'échelle d'un système. Mmh. Et du coup, je trouve ça très, très inspirant ce que tu nous racontes parce que vous avez une idée claire, en fait, de quelles sont ces valeurs et de où est-ce que vous voulez aller. Et du coup, à partir du moment où il y a cette ligne, et ben justement, comme tu dis, on va pouvoir créer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer de nouvelles manières pour ne pas reproduire les choses qu'on a vécues et qui ne nous ont pas plu, mais justement en étant intentionnel, c'est-à-dire qu'en sachant que c'est dans cette direction-là qu'on a envie d'aller plutôt que dans celle-là. Et tout à coup, ça change tout, quoi. Mmh. Ça crée un autre monde.
Ouais, et en plus, ça crée une force et une puissance face à tout le monde. Et c'est une grosse difficulté aujourd'hui parce que la femme, surtout, est dans le jugement et la peur du regard des autres. Et souvent, les premières choses qu'elle me dit, c'est « Mais ouais, mais quand je vais voir ma belle famille » ou « Ouais, mais quand ma mère, après, elle me dit ça. » Ouais, mais en fait, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu vas et quand tu sais pourquoi tu le fais, mais après, t'as même plus besoin d'expliquer, en fait. T'es même plus attaqué. T'as même plus besoin de montrer l'écrou, en fait. Souvent, c'est parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Et en fait, elles sont perdues. D'où l'importance de se reconnecter avec juste sa bulle, en fait.
C'est ça. Oui, ce que tu dis est très puissant, en fait. Ça répond à cette question de comment on fait pour construire de la confiance en soi. Et en fait, on commence par se connecter à soi-même et apprendre à se connaître soi et se poser la question brute, étant assise peut-être devant le miroir en se disant « Ok, en fait, qu'est-ce que je veux ? Et maintenant, il faut que je puisse tâtonner, essayer, apprendre, tenter, faire des expériences, n'importe quoi. Mais il faut que je trouve une manière de répondre à cette question. Qui est-ce que je suis ? De quoi est-ce que j'ai besoin ? Et qu'est-ce que je veux ? Parce que c'est aussi ma responsabilité en tant qu'adulte de le savoir. L'enfant, il est dépendant de l'adulte pour savoir de quoi il a besoin et puis petit à petit, il apprend à le nommer. Il le communique déjà très très jeune par ses gestes, son comportement, ses pleurs, etc. Mais effectivement, il y a quelque chose dans tout ce cheminement de la création de l'individu qui est aussi apprendre à se connaître soi, à connaître ses propres besoins et envies et à prendre sa part de responsabilité par rapport au fait que ses besoins soient assouvis. Et comme tu disais tout à l'heure, je ne peux pas attendre de l'autre qui réponde à mes besoins si moi-même, je ne sais pas le faire, voire même je n'ai pas conscience de quels sont ses besoins, ou peut-être même, si je vais encore plus loin, je me défends du fait d'avoir des besoins. Ouais. Genre, non, mais moi, ça va, tout va bien, je suis toujours OK, je suis toujours partante pour tout, je suis toujours d'accord, je suis toujours tout ce que tu veux. Et en fait, ben non, c'est pas vrai.
Oui. Et qu'est-ce qui me rend heureuse ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Est-ce que c'est faire comme tout le monde en 2022 parce que c'est ce qui est montré sur les réseaux sociaux ? Non. Non. Si t'as pas envie de voyager, voyage pas. Si t'as pas envie de sortir avec tes amis, sors pas avec tes amis. Si tu as envie d'être seule et de faire une expédition juste dans ta campagne, bah fais-le. Si tu as juste envie de ramasser des déchets dans la nature, bah fais-le. Ou si tu as juste envie de te caler sur le canapé, bah fais-le. Mais fais ce que tu as envie, toi.
Et du coup, apprends à le connaître, à le reconnaître
Ouais, c'est ça.
et à te le donner, effectivement.
Ah, et comment je sais que je suis heureuse? C'est quoi? C'est des papillons dans le ventre? C'est je me sens bien quand je vais me coucher? Comment ça se transforme en fait? Comment je peux savoir si je connais le bonheur, si je suis épanouie? Je sais pas. Je suis même pas sûre que je pose la question dans la rue. Je sais même pas si quelqu'un ils vont savoir la réponse de comment tu te sens quand tu es heureuse ou heureux.
Oui, c'est génial ce que tu dis. C'est très très vrai parce que on vient de faire des petites vidéos sur justement comment est-ce qu'on peut désarmer les conflits avant que ils ne dégénèrent, avant que ça monte en escalade de violence, qu'on finisse par dire des choses qui font mal, etc. Comment est-ce qu'on appuie sur pause et comment est-ce qu'on peut recréer du lien à ce moment-là. Et on parlait beaucoup de identifier les symptômes en fait, apprendre à connaître nos propres symptômes qui me disent ok, là j'ai été blessée, là je suis touchée, là je suis heurtée, là je suis en colère. Et du coup, on parlait de presque comme on fait pour une maladie en fait, juste bah ok, avec les symptômes et avec entre guillemets un petit tableau clinique, on va réussir à faire un diagnostic et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir faire quelque chose. Mais j'adore ce que tu dis dans le fait de aussi apprendre mes symptômes du bonheur en fait, c'est pas forcément une maladie ou un problème, au contraire. Et là où j'ai besoin effectivement de mettre de l'attention sur ce qui va me dire à l'intérieur de moi que ça va pas, qu'il y a quelque chose de moi qui a été heurté, pour pouvoir en prendre soin en temps réel et que ça ne pourrisse pas une journée entière, une nuit, une semaine, un mois et peut-être même toute ma vie de couple, parce qu'il y a des choses que malheureusement on trimballe très très longtemps. Donc ça, effectivement, c'est essentiel. Mais en même temps, de l'autre côté aussi, savoir quand est-ce que je me sens heureuse, quand est-ce que je me sens vibrante, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je suis pleine d'enthousiasme, qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je suis en joie, quand je me sens profondément au bon endroit, au bon moment, et que j'ai l'impression que je suis en train de faire exactement ce que je devrais être en train de faire à ce moment-là. Comment ça se concrétise à l'intérieur de moi? Et j'adore cette idée des symptômes du bonheur, enfin des signes de du bonheur.
Et je pense qu'en plus de ça, cette idée, elle est très fructueuse parce que elle va renforcer la capacité d'écoute des autres dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le besoin d'empathie pour grandir. Je constate à quel point la capacité d'avoir de l'empathie envers soi-même, c'est-à-dire de pouvoir ressentir ses propres émotions et en avoir une conscience de plus en plus fine, nous permet encore mieux de nous relier aux autres et de pouvoir ressentir les émotions que les autres sont en train de vivre aussi. Donc du coup, se poser cette question de tiens, moi, comment je me sens quand je suis heureux? Comment je me sens quand je me sens à ma place, quand je sens que j'ai ma place et que j'occupe ma place et que je suis en lien? Je pense que c'est une très très bonne question parce que ça va, en plus de ça, améliorer la capacité à être en lien avec l'environnement et avec les gens qu'on aime.
Mais exactement, mais oui. C'est tellement fort. Et pour ça, si on n'appuie pas sur pause, on peut pas. Donc c'est le début de tout.
Alors ensuite, on a une autre petite question un peu différente, mais qui est, à mon avis, qui va intéresser les gens qui nous écoutent, c'est de savoir, aujourd'hui, vous avez fait un super chemin, vous avez construit plein d'outils, vous avez des rituels, vous avez plein de manières qui vous permettent de recréer de la connexion, de favoriser la communication et d'être en lien. Et à l'intérieur de tout ça, qu'est-ce qu'il y a encore comme challenge, qu'est-ce qu'il y a encore comme défi, qu'est-ce qu'il y a encore comme point qui continue à vous faire souffrir, qui continue à être difficile malgré tout ça, parce que on constate, nous, dans les gens qui nous écoutent, qu'il y a souvent des thématiques, en fait, qui restent malgré tout et qui continuent à être délicates. Chez vous, ça ressemble à quoi?
Alors, ça ressemble à quoi? Je dirais que il y a encore une problématique qui est très très forte et qui est di difficile. C'est que mon amoureux, il a un manque de confiance en lui qui s'estompe. Hein. Enfin, il arrive à avoir de plus en plus confiance en lui. Et il y a de la jalousie qui est très très qui est très très malsaine chez lui. Et moi, à l'inverse, c'est un sentiment que je ne connais pas envers personne. Donc je pense que de toute façon, on s'est trouvé et que j'apporte beaucoup. Et aujourd'hui, mon travail, alors son travail à lui, c'est là-dessus. C'est vraiment de comprendre que ses peurs, tout ça, ça lui appartient, mais qu'il peut justement s'en détacher. Donc voilà. Et moi, de mon côté, c'est d'accepter. Parce qu'en fait, depuis toujours, je l'aidais. Je l'aidais à aller mieux. Je l'aidais à s'apaiser, à descendre le stress. Aujourd'hui, j'ai envie d'accepter encore plus cette part de lui qui est OK. Parce qu'en fait, on a tous nos défauts. Et en fait, le chemin, il est d'encore plus renforcer en fait, cette acceptation de « il est comme ça » et comment on trouve notre équilibre pour que, bah, justement, lui, il accepte, mais en douceur, quoi. Je ne sais pas si c'est compréhensif ce que je dis, mais c'est vraiment un gros, gros travail de toute une vie parce qu'en fait, moi, je fais la balance, on parle beaucoup de ça, on parle de nos besoins. Donc, en fait, je lui demande tout le temps et lui, il me demande à l'inverse. Et moi aussi, je n'accepte jamais. C'est-à-dire que je ne vais jamais accepter, par exemple, de ne pas faire quelque chose, accepter ses peurs et moi me bloquer. Non. Par contre, on a vraiment notre cercle. Et c'est-à-dire que j'ai besoin qu'il se prenne des murs, qu'il se prenne ses peurs, qu'il soit en difficulté pour avancer. Donc, je le confronte aussi à ça. Je ne fais pas exprès. C'est-à-dire que je file mon chemin, je suis dans mon cercle. Et des fois, malheureusement, ça se heurte. Mais c'est de mieux en mieux. Donc, c'est chouette. Donc, je fais un petit tableau à chaque fois avec les victoires. Mais voilà, je pense que c'est notre gros défi de vie. Je pense que c'est quelque chose qu'on aura toute notre vie, peu importe nos évolutions.
Oui.
Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Adrien, mais je pense que c'est notre...
Ah oui, complètement.
Tout à fait.
Voilà.
Ouais, je pense que comme tu dis déjà, ce qui est pour nous important dans cette question, c'est de mettre fin à l'idée que le bonheur ou la réussite dans le couple, c'est quelque chose auquel on arrive, que l'on atteint un jour, et c'est bon. Une fois qu'on a nettoyé toutes nos casseroles, ça y est, la cuisine est propre, rangée, toute nickel... Et il n'y a plus rien. Comme tu dis, c'est vraiment un chemin qui nous accompagne toute notre vie d'individu et du coup forcément toute notre vie de couple, de famille, etc. Et ce que j'entends dans ce que tu disais de ton chemin à toi par rapport à lui, c'était effectivement de peut-être, je vais mettre le mot de la psy dessus, mais sortir du syndrome du sauveur et le laisser tomber, avoir mal, échouer, etc., etc. Et en même temps, ce qui va avec ça, et ça c'est un sujet qui a été très important et qui continue de l'être pour nous, entre Adrien et moi, c'est ce rapport aux imperfections de l'autre. Et est-ce que je peux t'aimer avec ça? Et même, est-ce que je peux t'aimer pour ça? Est-ce que je peux aimer ces imperfections-là? Pas juste dire, ok, t'as des défauts, je t'aime en dépit de ça et j'arrive à les accepter, mais est-ce que je peux même avoir de la tendresse et de l'amour pour ces parties-là de toi? Et c'est vrai que pour nous, ben, moi, une des choses qui font que j'aime profondément Adrien et qui m'ont rendue profondément amoureuse de lui, c'est le fait qu'il soit justement toujours tellement en chemin, tellement en quête, et cette dynamique de vie qu'il a à l'intérieur de lui, cette envie, cet élan de vie à toujours cheminer, et évoluer et progresser. Et en même temps, j'ai eu besoin à un moment de me dire... Ok, attention, parce que à la fois j'aime ça à l'intérieur de lui, mais du coup c'est ça que je vais encourager. Et du coup je vais aussi ne plus être capable d'accepter qu'il y a des choses qui peut-être ne vont pas évoluer, ou en tout cas ne vont pas évoluer au rythme où j'aimerais que ça évolue, ou des choses comme ça. Et est-ce que je peux continuer à l'aimer lui et à aimer cet élan qu'il a à l'intérieur de lui, en aimant aussi le fait qu'il y a des choses qui vont pas bouger, et tout en aimant le fait que c'est pas parce qu'il a cette soif d'évolution qu'un jour il va devenir cet homme parfait que j'attendais, et ça c'est génial, et mon prince charmant, et que ça sera le jour de le quitter.
Heureusement qu'il n'existe
non,
pas.
Non, est-ce que je veux justement... Exactement. Est-ce que je peux l'aimer dans cette humanité de l'imperfection? Et bon, la question s'est posée dans le sens inverse aussi, un peu différemment, mais cette notion d'aimer l'imperfection de l'autre, elle est pareil, on en entend beaucoup parler. Et quand on la voit écrite sur des posts Instagram, on se dit toujours que ça fait très joli et que ça a l'air très intelligent. Mais c'est pas si facile que ça à faire dans le quotidien. Et j'aime la façon dont tu le formules. Que en fait, c'est vraiment un chemin aussi pour la personne en face de se dire, ok, est-ce que si cette personne que j'aime, elle garde ce manque de confiance en lui, par exemple, dans ce cas-là, est-ce que je peux aimer
ça? Ouais, c'est ça.
Est-ce que je peux avoir toute la tendresse du monde pour ça?
Ouais, et puis avoir conscience que, en fait, d'une, je suis pas responsable, de deux, ça ne m'appartient pas. Et c'est hyper important aussi de se protéger de ça et de pas tomber dans une sphère. Bon, nous, ça c'est jamais arrivé, mais du coup, pour accompagner beaucoup de couples et de mamans, ouais, des fois, c'est ça, en fait. Ils sont dans un... Et donc voilà, c'est ce et puis l'autre chemin, je dirais, ou l'autre difficulté qu'il nous reste à vivre au quotidien, c'est toutes les nouveautés chez nos enfants, en fait, qui nous renvoient à nos coffres intérieurs. C'est l'adolescence, c'est ce que ça nous renvoie à notre adolescence aussi à nous. C'est tout ça, en fait, ces difficultés de vie et par cet équilibre de se dire, OK, on est au début de plein... Enfin, voilà, la vie, c'est ça. Hein, donc, c'est des montagnes. Donc, voilà. Ouais. Et puis, c'est se dire...
Moi, pour...
Ah ouais, pardon. C'est juste se dire qu'on ne saura pas faire. Et c'est OK de ne pas savoir faire. Et ça fait peur. Et c'est OK de ça fait peur. Et on va avoir des émotions qui vont nous embarquer. Et c'est OK. Mais si on reprend notre méthode de notre famille qui est de... J'analyse, j'appuie sur pause, je fais un câlin et on en parle après. Ce sera OK. Pardon, Adrien, je t'ai coupé.
Moi, je voulais rebondir sur... Non, je t'en prie. Non, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit juste avant, sur le fait de réussir à aimer l'autre dans son imperfection. Et justement, exactement dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que j'ai la fervente conviction que pour que quelque chose puisse changer, il faut commencer par l'accepter. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi et que je commence à pouvoir toucher de mieux en mieux, c'est que justement, si je veux que quelque chose évolue, la meilleure manière de la faire évoluer, c'est de commencer par dire que cette chose, elle est OK.
Ouais.
Et ce message-là, s'il est adressé à l'autre, c'est-à-dire que si c'est par rapport à quelque chose que notre compagnon ou que notre compagne est en train de vivre, ça lui envoie à lui ou à elle un message qui est très puissant, qui est de dire « Tel que tu es là, maintenant, tout de suite, tu es digne d'amour. »
Exactement.
Et ça, dans le corps et dans le mammifère, ça envoie un message incroyablement puissant, ça fait baisser le stress en disant « Oui, ok, j'aimerais bien que ça évolue, j'aimerais bien que ça grandisse, j'aimerais bien que ça change, très bien. Mais là, tout de suite, maintenant, tel que tu es, moi, je te regarde et je t'aime. » Et ça, ça change tout. Ouais. Ça fait un bien dans le corps qui est juste très fort.
Ça enlève cette pression du regard des autres, du regard de l'autre et du jugement, en fait. C'est comme une femme, je prends l'exemple d'une femme qui s'aime pas et qui a du mal à se voir nue, par exemple. On lui dit, tu t'es sur une plage, mais il n'y a personne, vas-y. OK, et s'il y a du monde, elle n'ira pas. Parce qu'il y a du monde. Mmh. Bah, c'est exactement la même chose, c'est de dire, c'est OK en fait. Ce que tu es en train de vivre, tes difficultés, je t'aime avec. Elles sont OK pour moi. Donc, pas de pression. Ouais. Si tu as envie de les améliorer, si tu as envie d'aller vers autre chose, c'est pour toi que tu le fais. C'est pas pour moi. Et là, ça enlève une pression de fou.
Oui.
Parce que justement, c'est précisément à ces endroits-là qu'on a le plus besoin d'être aimé.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, être aimé pour toutes les choses qu'on sait déjà faire, toutes les choses qui fonctionnent, toutes les choses pour lesquelles on est doué et on est bon, ça, entre guillemets, c'est cool. Et c'est pas là où on en a le plus besoin. Là, on en a le plus besoin, c'est là où nous, on n'arrive pas à s'en donner à nous-mêmes.
C'est clair.
Oui, et encore plus dans l'espace relationnel qui est le plus intime et qui est le plus essentiel. Parce que, effectivement, là, tu prends l'image d'aller à la plage, par exemple, et d'avoir des gens autour qui me regardent. Ça peut être déjà une gigantesque montagne. Et je pense qu'on en a toutes fait l'expérience en début d'été de « Oh là là, est-ce que je vais vraiment assumer le bikini que j'ai choisi ?» Je ne suis pas sûre. Mais à la limite, on peut encore arriver à s'en sortir par une petite pirouette intérieure de « Bon, de toute façon, je m'en fiche, qui sont ces gens pour moi et c'est fini », alors qu'en fait cette sécurité pas encore une fois, c'est tout un chemin en soi, bien sûr, mais je pense que dans les gens qui comptent pour nous, dans le couple, dans la famille et puis pour les enfants par rapport aux parents, etc., il y a aussi des choses, pour le coup encore une fois, du mammifère qui se réveille, de la peur du rejet, de la peur d'être abandonné, de ne plus être aimé, de la peur de perdre l'estime de l'autre, de ce regard qui est porté sur nous. On a fait trois épisodes sur la honte et sur l'importance de ce regard qui est posé sur nous. Et quand c'est quelqu'un qu'on aime et de qui on attend de l'amour, voire de qui on a besoin de recevoir de l'amour, l'enjeu, il devient gigantesque. Et effectivement, de pouvoir se montrer dans ce niveau de vulnérabilité, dans ce niveau d'imperfection, de pouvoir dire, ben voilà, cet endroit-là, à l'intérieur de moi, il me fait mal, il continue de me faire mal, je suis aux prises avec des peurs, avec des jugements de moi, avec tout ça, et j'arrive pas, en fait, à m'en défaire, et j'ai besoin que tu m'aimes et que tu m'accueille là-dedans, sans que toi-même tu rentres dans ton propre besoin de me sauver ou de résoudre le problème à ma place, ou de faire que je sois autrement, parce que quelque part, chaque fois que tu me proposes de m'aider, ou chaque fois que tu me proposes une solution concrète, ce que tu es aussi en train de me dire, c'est qu'il faudrait que je puisse être autrement. Et au contraire, j'ai besoin de sentir que je peux partager ces vulnérabilités-là avec toi, et que non seulement tu vas rester, mais en plus, tu ne vas pas perdre ton estime pour moi, et que je vais être en sécurité là-dedans. Et c'est un peu ce que tu disais par rapport au conseil de famille, j'ai la sensation, cet espace de sécurité que vous avez créé, où du coup les enfants peuvent dire bah, on a fait cette bêtise là par exemple, ou moi j'ai cette chose là que je vis à l'intérieur de moi, et ils sont tranquilles avec le fait que c'est l'espace pour en parler et qu'ils vont pas être seuls avec cette chose là et qu'en même temps il va pas y avoir non plus de représailles, etc. Mmh. Enfin, toute cette sécurité pour être dans sa vulnérabilité.
Ouais, non mais c'est sûr, c'est hyper important je pense pour tout le monde.
Alors du coup, donc tu parles des personnes que tu accompagnes, etc. Qu'est-ce que tu dirais que tu entends comme étant justement des défis ou des challenges les plus récurrents, on va dire, que ce soit pour des couples ou bien pour des couples parentaux ou bien dans des familles? Qu'est-ce qui revient beaucoup dans ce que tu entends?
Bah, le lien qui a été cassé, ça c'est chez beaucoup de parents. Le lien cassé, cette difficulté en fait de non-jugement, d'utiliser le je, moi je leur dis tout le temps, mais utilisez le je, essayez de reprendre vos phrases, ne parlez pas sous stress, voilà, c'est la plus grosse difficulté, c'est ce lien qui est perdu, et en fait on n'arrive plus à communiquer et on fait que se hurler et se crier dessus, autant sur adulte, enfant, couple. Et voilà, alors je le dis souvent, mais c'est une phrase qui apporte à tout le monde et qui est compréhensif, c'est la femme devient une plante verte et puis l'homme, il est plus du tout acteur de cette vie familiale. Et ouais, ça, c'est ce que j'entends le plus.
Mmh. Et quand tu dis que le lien est perdu, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça se...
Eh bien, c'est ça. C'est quand je leur... Souvent, la prise de conscience, c'est quand je leur demande « Racontez-moi quand c'était avant vos enfants. Racontez-moi comment vous étiez au début. » Et là, bon, généralement, ça s'effondre. Et en fait, c'est ça, c'est ce lien. C'est, alors oui, c'est quelque chose qui s'entretient. Oui, c'est quelque chose qui est possible, même après 20 ans ensemble. Hein. Moi, je me battrais toute ma vie pour ça, je pense. Parce que c'est possible et ça se transforme en d'autres choses. Mais ça peut être toujours aussi beau. Et malheureusement, on ne se regarde plus, on ne se parle plus, on ne se touche plus. Et ça, c'est bien dommage. En fait, on est pris dans ce tourbillon de la vie qu'on s'impose nous-mêmes. Hein. Et voilà. Et ça, c'est une généralité.
Et donc, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'il y a la façon dont le contact va permettre d'entretenir ce lien. Le contact visuel, tactile, de passer du temps ensemble, de se voir, de se regarder, de s'écouter. Ce contact entre les deux qui, s'il disparaît, du coup, fait que le lien ne peut plus vivre. Et en fait, c'est vrai que parfois, quand on est dans les débuts des relations ou avant les enfants, on a un peu l'idée que c'est tellement fort, entre guillemets, que ça va rester comme ça et que c'est pas... comme si c'était pas quelque chose de vivant qui avait besoin d'être arrosé, d'être regardé, ouais, d'être mis en lumière, alors que, en fait, si, c'est quelque chose qu'on c'est a ça. Besoin d'entretenir.
Et il faut bloquer, enfin, je pense qu'aujourd'hui, les téléphones, Netflix, Instagram font beaucoup de mal. C'est-à-dire qu'il faut poser les téléphones, il faut les laisser. Il faut les laisser dans une boîte, laissez-les à l'entrée de la maison. Vous vous mettez des créneaux pour aller regarder les téléphones, mais point, arrêtez. Ouais, c'est... C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, ça apporte... Là, pour le coup, ça rend heureux et ça apporte du bonheur si on retrouve ce contact et ce lien.
Eh oui, parce qu'on en a tellement besoin tous pour vivre, en fait.
C'est ça.
Sinon, on se donnerait pas autant de mal à faire couple et à faire famille si on n'avait pas tellement besoin de ce lien. C'est quand même beaucoup de boulot. Faut bien que ça vous fasse du bien aussi en échange.
Donc, aller faire du sport ensemble, aller vous balader main dans la main. Voilà, faut vraiment s'octroyer des choses. C'est important de se... Moi, je dis, donnez-vous des rendez-vous. Alors, des fois, ils rigolent, mais oui.
Ouais.
On se donne un rendez-vous pour aller dans le jardin, regarder le potager et les fleurs. Ouais, bah oui. Ouais, on est obligé de faire ça en 2022. Oui. Ouais.
En fait, je pense que même avant, à mon avis, les hommes et les femmes avaient des vies tellement séparées que Là, bon, ils n'avaient peut-être pas la notion de se donner des rendez-vous, mais...
Mais ouais. S'allonger dans l'herbe, dans son jardin, ouais. C'est important.
Oui, aujourd'hui, on a cette notion qu'on a envie d'avoir des vrais liens dans le couple, qu'on a envie d'avoir des vrais liens avec nos enfants. Peut-être que c'était des choses auxquelles les gens aspiraient déjà avant, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était peut-être moins mis en avant comme quelque chose auquel on aspire collectivement. Et aujourd'hui, ça l'est. Donc effectivement, c'est comment on se donne les moyens de le vivre après.
C'est ça.
Et que ça reste pas juste des aspirations.
C'est ça. Moi, dans la génération de mes parents et de mes grands-parents, je le ressens pas. Je l'ai pas vécu ça. J'ai pas vu de lien. J'ai pas vu de contact. J'ai pas vu de tout ça. Et du coup, on est hyper fiers avec Jonathan de créer ça pour nos enfants, parce qu'on l'a pas dans nos deux familles respectives. On l'a pas autour de nous. Et je pense vraiment que c'était pas dans leur eux. C'était travail, société, évoluer, etc. Et nous, on est en train de casser tout ça en disant mais stop en fait, ça nous a pourri. On s'est noyé, on s'est
C'est
perdu.
ça.
Et on veut plus de tout ça pour nos enfants. Et en fait, on veut arrêter. Et je pense que oui, t'as raison. C'est ce qui nous nourrit aujourd'hui et heureusement, on y arrive.
Oui. Oui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens qui nous écoutent
Un petit conseil, une petite citation, quelque chose qui
Ouais,
t'inspire.
bah juste faites-vous confiance, c'est possible. Ça paraît difficile comme ça parce que je sais que là, toi, tu nous écoutes et c'est peut-être difficile, tu t'es reconnu dans tout ce que l'on a dit, mais fais-toi confiance et c'est possible. Et si tu veux savoir par où tu dois commencer, bah appuie sur pause. Appuie sur pause, écris et fais-le pour toi déjà. Et après, t'en parleras à ton chéri, mais pour l'instant, fais-le que pour toi.
Oui. Et puis si t'as pas de chéri, fais-le encore plus pour toi parce que ce sera extrêmement précieux pour toi maintenant et puis pour le chéri plus tard.
C'est ça.
Ou pour la chérie d'ailleurs.
Ouais, non, mais c'est sûr.
Merci
Merci
Audrey.
à vous.
Merci pour
C'était
toutes ces
chouette.
richesses. Oui, peut-être qu'on réitérera l'expérience, en tout cas,
Ouais.
moi ça m'a énormément plu,
Bah, quand
donc...
vous voulez, au plaisir.
Merci d'être venu, merci pour ta générosité, pour ta sincérité et pour cette capacité à mettre des mots très simples sur des choses très fortes et très puissantes que beaucoup ont du mal à exprimer. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir entendre ça.
Avec plaisir.
Bonne journée.
Bonne journée à
Bonne
tous.
journée.
Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes? C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.